Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galthié.
Pour cette 13e émission d'Oxyform, nous allons parler de nutrition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir un diététicien nutritionniste, mais aussi un ancien sportif de haut niveau, notamment dans le handball et l'athlétisme. Notre invité va nous expliquer son parcours et pourquoi il a choisi la voie de la nutrition. Bonjour Michel Martineau.
Bonjour Romain.
Alors vous êtes natif d'Annemasse.
C'est cela, Annemasse, petit village de Haute-Savoie, hein, proche de Genève, hein, frontière suisse.
Et donc vous avez fait toutes vos études dans la région de la Haute-Savoie ?
Alors non. J'ai eu un parcours en fac de psychologie à Grenoble au départ, sachant que je me cherchais un petit peu. J'ai fait aussi deux prépas kiné, un peu de fac de biochimie sur Genève. Et finalement, donc, j'ai trouvé ma voie vers un BTS diététique, notamment sur Grenoble.
Et est-ce que vous pourriez nous situer, pour les auditeurs, l'historique de la diététique et de la nutrition ?
Alors, pas en ce qui me concerne, hein, on va dire au niveau de l'association, par exemple, française des diététiciens nutritionnistes, c'est ça que vous voulez dire ?
Par exemple, et même de la nutrition à travers les âges, et bon. Comment on en est venu justement en arriver à ce domaine-là ?
On va dire que l'école de diététique, c'est pas tellement vieux, hein, ça a 50-60 ans, hein, donc et petit à petit, ça a évolué en fonction des référentiels scientifiques, etc. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui est récente.
Comment se passent les formations dans les domaines de la nutrition sportive ? Je sais qu'il y a de plus en plus de gens, le sport c'est à la mode, ça explose de partout. Justement, la nutrition va avec, et on a de plus en plus de demandes au niveau des forums de nutrition, de savoir comment se passe une formation, lesquelles sont les bonnes et vers quoi s'orienter pour être un bon diététicien nutritionniste dans le sport.
Alors aujourd'hui, il faut automatiquement passer soit par un BTS diététique, soit s'orienter sur un IUT, je crois que c'est biologie avec diététique appliquée. Et à partir de là, on peut après choisir de se former sur la nutrition du sport. Mais à la base, il faut automatiquement être diététicien nutritionniste pour pouvoir après suivre une spécialisation. La spécialisation, alors c'est vrai qu'on tombe bien, on est sur Toulouse, hein, donc il y a un diplôme universitaire qui se passe sur Toulouse, hein, en nutrition du sport. Après, il y en a d'autres aussi en France, notamment hein, à Clermont-Ferrand, qui se passe tous les deux ans. Donc, c'est par ce biais-là qu'on peut se former.
Vous avez aussi une formation prévention antidopage.
Oui, alors j'ai deux formations supplémentaires, notamment une à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où là, moi, j'ai passé mon diplôme universitaire en nutrition du sport, plus une seconde formation qui correspond à prévention et lutte antidopage, sur la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, à Paris.
Donc, vous, dans votre carrière, vous ne vous êtes pas occupé que des sportifs. Vous avez eu tout type de patients ou de clients. Je ne sais pas comment doit-on les appeler.
Oui, plutôt patients, effectivement. Alors, il est vrai que bon, j'ai commencé directement en cabinet, hein, libéral. Ça fait un petit peu plus de 20 ans. Et c'est vrai que notre activité est assez vaste. Hein. On a les enfants, les personnes âgées, on va avoir toutes sortes de pathologies chroniques, aussi bien le diabète, les pathologies digestives, les pathologies cardiaques. Et on a aussi une forte demande sur les pertes de poids. Donc, après, le reste, ça a été une spécialisation dans le domaine de la nutrition du sport. Mais sinon, avant tout, on passe sur ces bases-là.
Donc, nous parlerons plus tard de toutes les spécificités dues à votre métier. Oui. D'où vous est venu le goût de la nutrition ?
Question difficile. Je pense qu'au départ, je l'ai utilisé sur moi, hein, à l'époque où j'étais ancien athlète de haut niveau. Et je pense que de fil en aiguille, ça s'est transformé en passion. Hein, donc on est allé un petit peu plus loin que les besoins de soi-même. Là, j'ai voulu chercher plus loin.
Vous êtes aussi rédacteur pour Coach Challenge. Alors oui. En quoi consiste cette activité ?
Alors, faisant partie du groupe d'experts en nutrition du sport en France, de l'Association française des diététiciens nutritionnistes, on peut être demandé, on peut être amené à écrire des articles. Et là, on est deux du groupe d'experts à écrire pour Coach Challenge, à savoir, on nous demande d'aborder certains thèmes, peu importe, ça peut être sur les protéines, ça peut être sur une ration post-effort, comment s'alimenter avant un entraînement, voilà.
Vous êtes aussi rédacteur pour d'autres magazines, vous écrivez d'autres articles concernant la nutrition.
Oui, on peut être des fois approché par des revues comme Femme Actuelle ou l'agence France Presse. On répond à de nombreuses demandes, effectivement. Ouais.
Et donc, ce passé de sportif de haut niveau, notamment dans l'athlétisme et dans le handball, si j'ai...
C'est ça, handball.
Combien de temps ça a duré?
On va dire que ça a commencé vers l'âge de 7 ans, jusqu'à à peu près 20 ans. Après, les études ont fait qu'il faut choisir. Mais c'est déjà, je pense, comment je vais pouvoir dire ça, un temps d'activité qui est assez large. Hein. Donc, alors le haut niveau, forcément, il a été sur 4 ans à peu près. Hein. Parce que forcément, il faut déjà un certain âge pour entrer dans le haut niveau. Hein. Après, sachant que les études prenaient le relais, j'ai pas pu continuer. Mais bon. Je ne voulais pas en faire carrière, je voulais pas faire carrière, donc c'était plus un plaisir d'évoluer à haut niveau qu'un choix de carrière.
Mais le choix justement de la nutrition est cohérent, et notamment la nutrition du sport par rapport à votre parcours, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie toujours, le sport. C'est...
Complètement, j'ai toujours une activité à peu près de 6-8 heures par semaine, hein, et c'est clair que les deux se rejoignent, hein, nutrition et activité physique forcément se rejoignent.
On peut dire que vous avez le gène du sport.
On peut dire que j'ai le gène du sport, c'est ça.
Et vous êtes marié, vous avez deux enfants.
Oui.
Vous leur avez transmis la fibre?
Alors, par le biais déjà de l'impact sur la santé, oui. Hein, dès leur plus jeune âge, je les ai orientés vers le sport. J'en ai une qui a pratiqué de l'âge de 2 ans jusqu'à 14 ans la natation sportive. Aujourd'hui, elle est en natation synchronisée. Bon, elle a évolué à un niveau assez sympathique. Hein. Elle allait jusqu'en Coupe de France en papillon. La deuxième a été orientée plus vers le tennis, puis aussi l'athlétisme. Hein. Et aujourd'hui, bon, bah, elles évoluent dans des domaines un peu différents. Une en gym et puis l'autre, forcément, on a dit en natation synchronisée. Mais oui, j'ai essayé de leur transmettre.
Et quelle est votre expertise au niveau des... Du loisir, pour quelqu'un qui pratique du sport en loisir, pour lui établir un programme de nutrition, quels sont les critères que vous allez appréhender?
Alors, sur du sport loisir, il n'y a pas vraiment d'exigence. C'est-à-dire que l'alimentation du sportif va intervenir à partir du moment où on prend la définition de qu'est-ce qu'un sportif. Un sportif, c'est dès lors où il va pratiquer 1 à 2 heures d'activité physique par jour, 4 à 5 fois par semaine. Donc, tant qu'on n'est pas dans ces critères, on va être sur de l'alimentation, on va dire, concernant un sport de loisir. Et là, il n'y a pas vraiment d'exigence. On va plus se diriger vers un équilibre alimentaire, hein, où là, c'est certain, c'est des besoins liés à la santé, et il pourra largement couvrir ses besoins énergétiques liés à son sport.
Pour un sportif, à contrario, comment ça se passe si vous devez... si moi, je souhaiterais m'immerger dans la vie alimentaire d'un sportif de haut niveau. Comment se déroule une journée type pour ce genre d'athlète?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de journée type, parce que l'apprentissage est long. On compte à peu près facilement 3-4 mois avant de pouvoir éduquer un sportif et le rendre autonome. Alors, généralement, on va d'abord lui apprendre à gérer son alimentation quotidienne, qui va correspondre plutôt à la couverture de ses besoins liés à ses entraînements. Petit à petit, on va glisser vers l'alimentation pré-compétitive. Qu'est-ce qu'il doit faire avant une compétition? On va aussi gérer les aspects du jour J. Qu'est-ce qu'il faut faire, on va dire, le jour de la compétition? Et après, il y a d'autres points à aborder, l'hydratation, les rations post-exercice, en récupération. Donc c'est vrai que c'est assez vaste. Donc des journées type, on va dire la journée type, elle sera là une fois qu'il maîtrisera... on va dire, tous ces domaines-là.
Et puis, je pense que tout dépend le type d'activité. Je pense qu'un sprinter ne va pas manger comme un footballeur ou comme un basketteur.
Complètement. Ça va être complètement différent.
Comme un haltérophile.
C'est ça. Il y a des exigences qui sont complètement différentes.
Quelle est, pour vous, la définition et quel est le but du métier de diététicien nutritionniste?
Le métier de diététicien nutritionniste, il passe par deux axes. On va dire d'abord la nutrition. La nutrition, on va considérer que c'est le maniement de tout ce qui est protéines, lipides, glucides et les micronutriments, vitamines, oligos, etc. Ces aspects nutritionnels vont nous permettre d'aborder après l'aspect diététique, à savoir transformer tous ces éléments, on va dire, chimiques en nourriture, pour arriver donc à l'assiette et à l'équilibre alimentaire.
Dans votre parcours professionnel, alors vous avez parlé du libéral, est-ce que vous avez fait aussi de l'hôpital ?
Non, hormis pendant les études, où on a des stages obligatoires. Sinon, non, je ne souhaitais pas, travailler en milieu hospitalier. Par rapport au fait qu'on a peu, je trouve, de contact avec le patient. Hein, il y a beaucoup de contrôle de chaîne alimentaire. On va établir des bons repas pour les plateaux repas en fonction des pathologies que le patient aura. C'était quelque chose où je ne me destinais pas, je ne me voyais pas du tout évoluer dans ce domaine-là.
Du coup, vous avez aussi pratiqué votre métier en dehors du libéral, dans des clubs, dans des associations, notamment au sein d'une équipe de tennis ?
Oui, je fais partie de l'association régionale Genève Tennis, qui évolue en Suisse, hein, où là, je suis responsable nutrition sur des jeunes qui évoluent de 10 à 18 ans en fonction de certains niveaux. Hein, donc là, c'est de l'associatif. Après, bon, il y a les équipes de Ligue 1, hein, forcément. Le fait de faire partie de l'association française des diététiciens nutritionnistes aussi, c'est une action où là, on se doit... Du moins, on se doit. C'est-à-dire qu'on va avoir des formations, on va donner des formations, on va intervenir dans certains congrès. On peut avoir aussi des interviews ou des articles à écrire. Ouais, donc ça reste aussi de l'associatif.
L'AFDN, quel est son but, en somme ?
Alors, déjà, c'est de promouvoir justement la profession de diététicien nutritionniste. Ça, c'est le premier point. Après, on est quand même là aussi pour informer la population. Hein. On fait partie donc d'un système de santé où on sait aujourd'hui que l'alimentation va avoir un impact hein, sur cette santé. Donc, il y a des référentiels qui sont issus. Notamment, on a le programme national nutrition santé. Vous devez en avoir déjà entendu parler par le biais de certains messages de certains médias, notamment éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Vous avez mangé 5 fruits et légumes. Donc bon, ça fait partie effectivement des axes de l'Association française des diététiciens nutritionnistes.
Alors, on entend beaucoup parler aussi de la chasse aux charlatans.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur ces dérives justement de la nutrition ?
Alors, cette chasse aux charlatans, c'est vraiment le terme. Hein. C'est une campagne qui a été lancée il y a quelques mois en arrière par l'UPDLF, c'est-à-dire l'Union professionnelle des diplômés en diététique de langue française, donc qui part par la Belgique. Et tout ça, c'est pour essayer d'informer la population que certaines personnes non diplômées hein, vont pratiquer notre profession. Alors, vous avez différents termes, coach en nutrition, chrononutritionniste, nutrithérapeute, nutritionniste. Et tous ces termes paraissent, conformes au métier d'un diététicien, alors que non.
Effectivement, parce que j'ai énormément rencontré de coachs sportifs qui, eux, dans le cadre de leur formation d'éducateur sportif, ont eu des initiations à la nutrition par rapport aux cours, mais m'ont expliqué ne sont pas capables et ne sont pas habilités justement à concevoir un plan alimentaire vu que ça concerne le domaine médical.
Oui, après, ils peuvent être amenés à donner des conseils généraux, hein, de savoir qu'il faut essayer de diversifier son alimentation, l'équilibrer sur des règles générales. Après, de dresser un plan alimentaire et encore plus suivre, par exemple, un diabétique, effectivement, complètement interdit.
Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre carrière de diététicien nutritionniste ?
Je ne sais pas quoi vous répondre parce que j'ai pas vraiment de préférence, sachant que je suis passionné par mon métier. Et du coup, tout me plaît, sachant que je suis un peu dans l'enseignement, je donne des formations, je m'occupe de club, j'ai la partie cabinet. Donc c'est vrai que c'est assez vaste et je me complais dans toutes les situations. Donc j'ai pas forcément de préférence.
C'est paradoxal parce que pour quelqu'un d'ultra spécialisé, notamment dans le diététicien nutritionniste, spécialité nutrition du sportif, prévention antidopage, ça reste quand même un domaine très spécialisé. Et pourtant, vous êtes quelqu'un d'extrêmement polyvalent.
Alors, c'est polyvalent, mais sur effectivement quelque chose de très spécialisé.
Très spécifique, oui.
Voilà, parce qu'effectivement, j'interviens toujours sur le même thème.
Sauf que vous effectuez diverses activités. Ça peut être de l'art oratoire, notamment en conférence. Ça peut être de l'explication, comme ça peut être justement une interaction avec un patient pour, avec de l'observation, de l'écoute et un échange humain, en fait, tout simplement.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, vous êtes actuellement diététicien nutritionniste pour le Toulouse Football Club.
Oui.
Ça vous prend beaucoup de temps ?
Alors, de fait, de l'éloignement, forcément, on a déjà une perte de temps hein, par le biais des trajets. Alors, bien heureusement, on a EasyJet qui fournit un vol par jour de Genève à Toulouse. Mais oui, c'est toujours chronophage. Ça, c'est évident. Maintenant, ça allait un petit peu moins qu'au tout départ où j'ai dû tout installer. On va dire du cahier des charges qu'il faut mettre en place pour les déplacements, de la prise en charge de chaque footballeur. Hein, aujourd'hui, c'est plus maintenant du contrôle puis de gérer les nouveaux arrivants.
Nous allons maintenant effectuer une pause musicale avec un morceau proposé par Michel qui se nomme
Nothing Else Matter.
Nous sommes de retour avec Michel Martineau. Alors, pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Alors, premièrement, parce que je suis un petit peu fan de métal, hein, de hard rock. Et récemment, au mois d'avril, je suis allé les voir en concert à Genève. Donc, c'est vrai qu'ils commencent à prendre un petit peu de l'âge. Donc, on veut les voir avant qu'ils disparaissent.
C'est une sacrée chance.
Oui.
Alors, j'aurais une petite question concernant le rôle des diététiciens nutritionnistes. Quel est le rôle et l'attitude qu'ils doivent avoir envers un patient ?
Alors, premièrement, il faut vraiment être à l'écoute du patient. Généralement, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour perdre du poids. C'est quand même le plus gros de notre patientèle. Et c'est des personnes souvent qui sont un peu en détresse. Donc c'est vrai qu'il faut être à l'écoute pour prendre en considération ces demandes et passer beaucoup de temps. Hein, généralement, une première consultation, elle va durer à peu près 1h30.
Ah, effectivement, il faut vraiment, on apprend à connaître vraiment la personne entièrement pour voir s'il n'y a pas justement des choses qui peuvent nous échapper. Et donc ça demande vraiment un travail très, très consciencieux.
Oui, durant l'étude alimentaire, donc on va découvrir des choses. Des fois, on peut découvrir de l'alcoolisme, on peut découvrir une femme qui se fait battre. Il y a vraiment différents tableaux. Et c'est sûr qu'il faut les prendre en compte. Hein, donc,
Il y a aussi des troubles alimentaires du comportement ou...
Oui, on a les troubles du comportement alimentaire, telle anorexie, boulimie. Alors souvent, c'est préférable quand même de travailler avec des structures... Hein, des cliniques. Bon, généralement, on a psychiatre, psychologue, médecin de famille. Hein, c'est vraiment un encadrement pluridisciplinaire.
Et vous avez des échanges justement avec les divers pratiquants, par exemple avec les psychiatres, avec les médecins ?
Oui, soit par le biais de tables rondes. Hein, donc, on peut faire une réunion pour discuter d'un patient, pour voir quels sont les axes à travailler pour améliorer justement sa condition. Ou sinon, on peut le faire par biais d'email ou téléphonique.
Alors, quels sont les différents axes de la nutrition ?
C'est-à-dire ?
Alors, quels sont tous les facteurs qu'il faut prendre en compte pour la nutrition ? Comment, bien se nourrir,
Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un consensus mondial depuis 2016, à savoir que aussi bien les États-Unis, l'Australie et les pays d'Europe sont sur les mêmes recommandations. Donc déjà, on ne peut plus dire « oui, mais la France fait comme ça, les autres pays, non ». Aujourd'hui, c'est consensuel, donc déjà, on n'a plus ce problème-là. Après, on a des organismes qui vont mettre en place des recommandations telles le Programme national de nutrition santé, qu'on évoquait tout à l'heure, où on va vous dire bah voilà, il faut avoir des protéines à chaque repas, hein, viande, poisson, œufs, jambon, des féculents, hein, du riz, des pommes de terre, des légumes, des fruits, des produits laitiers. Voilà, donc c'est ces critères-là qu'on va travailler pour respecter un certain équilibre alimentaire.
L'importance de la nutrition dans le sport, elle est grande.
Oui, le sportif, il repose sur trois piliers essentiels. On va dire l'entraînement, la récupération et la nutrition. Donc forcément, ce troisième pilier va avoir un impact très important sur la performance, sur la récupération et aussi sur le risque de blessure.
Et selon le sport, la diète alimentaire varie. J'imagine que, par exemple, pour un culturiste, un bodybuilder, on doit être en régime très, très lourd.
On ne peut pas dire lourd, on va dire que c'est différent. C'est sûr que si on compare un culturiste et puis un ultra-trailer, on va dire que les bases alimentaires sont les mêmes, mais où ça va être complètement différent, ça va être sur les pourcentages, par exemple, de protéines, de lipides et de glucides. Un va demander à avoir des apports protidiques plus importants, l'autre, des apports glucidiques plus importants. Donc, effectivement, entre certaines disciplines, là, c'est sûr qu'on va sur les deux opposés, hein, un qui va rechercher la masse musculaire et l'autre plutôt l'endurance, donc forcément.
Donc, on va dire que les apports glucidiques favorisent plus l'endurance et la protéine, on va dire, favorise Le muscle.
Le carburant.
Même si c'est un peu grossier.
On va dire que le carburant de prédilection dans les sports d'endurance, c'est le glucose. Hein. Donc forcément, et sur les sports de force, sachant qu'ils veulent augmenter la puissance, donc on va privilégier les protéines pour augmenter la quantité de masse musculaire.
Alors, il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage justement sur les hommes, les strongmen, donc ces hommes qui mangent plus de 10 000 kilocalories par jour, enfin, ce qui est énorme. Ils mettent leur santé en danger, ces personnes.
Alors, la valeur énergétique, pas forcément, parce que dès lors où le bilan énergétique est équilibré, on n'a pas de souci. C'est-à-dire que s'ils mangent 10 000 calories mais qu'ils les dépensent, c'est pas un problème.
Ça veut dire que c'est proportionnel à sa masse musculaire et à son volume.
Ça va être proportionnel à ses dépenses. On avait notamment, on a des exemples assez impressionnants, tels le nageur américain, hein, Phelps, qui consommait à peu près 12 000 calories par jour. Alors que si on regarde les besoins moyens d'une personne lambda, hommes sont aux alentours de 2500, 2600. Mais bon, il prend pas de poids, donc forcément, ça veut dire que quelque part, il va dépenser cette énergie au cours d'une journée.
Alors on est peut-être pas tous égaux aussi dans ce genre de situation. Il y a des gens, à ma connaissance, qui vont manger énormément et qui ne vont pas prendre un gramme, qui vont rester fin, et d'autres qui font très attention parce que dès qu'ils font un petit excès, ils le sentent directement dans le petit pli qu'on a au niveau du ventre ou
ah oui, vous avez
sur les
raison.
Côtés. Voilà.
Tout à fait, oui, on n'est pas tous égaux face à l'assiette. Il y en a qui vont avoir la chance de pouvoir tout ingurgiter. Alors, en termes de prise de poids, oui, mais dès lors où l'origine alimentaire n'est pas forcément, en correspondance avec nos recommandations, à un moment donné, ils pourraient développer une maladie chronique telle cardiovasculaire ou cancer, pourquoi pas, alors que pourtant, si on regarde leur silhouette, elle est normale.
Comment se passe un rééquilibrage alimentaire d'une personne qui mange fast-food tous les jours? Comment on va la rééquilibrer et lui apprendre à manger sainement et de manière à être en bonne santé?
Alors premièrement, il faut déjà que ça soit une démarche personnelle, hein, de sa part. C'est-à-dire souvent, on peut comment je dirais, forcer un proche à aller voir un diététicien, généralement, ça reste éphémère. Hein. Au bout de quelques mois, il y a abandon. Mais il est vrai que si la personne est vraiment volontaire dans sa démarche, ben on va commencer, hein, comme un apprentissage traditionnel. On va revoir les bases par le biais du Programme National Nutrition Santé. On va tout d'abord analyser comment il fonctionne, de savoir pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi il mange que fast-food. Est-ce qu'il a eu une éducation par rapport à ça ou pas, hein. Il faut vraiment s'investir et s'immerger dans sa vie nutritionnelle. Il faut aborder tous les aspects, l'aspect pécunier aussi, hein. L'aspect professionnel, qu'est-ce qu'il a appris au cours de son enfance par le biais de ses parents, hein, quelle a été son éducation nutritionnelle. Il y a énormément de points à aborder pour pouvoir après le formater et qu'il puisse avoir une alimentation équilibrée et de plus est de santé.
Alors on dit souvent qu'un sportif coûte cher en alimentation, notamment par rapport à la dose de protéines, de viande ou de poisson qu'il va devoir consommer journalièrement pour justement reconstruire son muscle par rapport aux efforts qu'il effectue.
Alors dès lors où il va dépenser plus en énergie, il va devoir consommer plus. Donc forcément, au niveau pécunier, ça va davantage coûter. Maintenant, pas forcément en termes de protéines, c'est souvent lié à des mauvaises pratiques, hein, où il y a une surconsommation de protéines de manière non justifiée. On le voit souvent. Hein. Souvent, les sportifs font des erreurs, peu importe la catégorie de sport, où ils vont surconsommer des protéines, alors que c'est pas forcément là où il faut aller chercher la réponse. Hein. Ça va être plus sur le carburant, qui va correspondre, on va dire, plutôt aux féculents, aux pâtes, etc., les glucides. Mais on observe souvent une peur de l'athlète de prendre du poids. Et pour lui, manger des pâtes, ça fait grossir. Manger de la viande, non. Alors qu'à un moment donné, si on surconsomme un aliment, c'est pas une histoire d'origine alimentaire, mais de quantité. Dès lors où il va dépasser ses besoins, à partir de là, il va stocker sous forme de tissu adipeux.
Comment se conçoit un programme nutritionnel ? Est-ce qu'il varie selon l'athlète dans une équipe ?
Vous parlez, par exemple, du foot ?
Oui, par exemple, au football, sur une équipe de 10 joueurs. Comment va se dérouler le programme alimentaire ? Il va être différent selon au cas par cas, j'imagine, ou on a quand même une ligne, un conducteur, quelque chose qui n'est...
Il y a toujours le fil conducteur qui représente l'équilibre alimentaire. Moi, j'ai une éthique assez simple mais précise. C'est un, de mettre en sécurité le sportif. C'est-à-dire qu'au départ, on considère qu'il a des besoins en tant qu'individu lambda auxquels on va greffer des exigences liées à des besoins sportifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que au départ, il va avoir... Parce que souvent, les sportifs me disent « Mais qu'est-ce qu'on doit manger, nous, par rapport à une personne sédentaire ?» Le schéma est le même. C'est uniquement, on va dire, ces dépenses qui vont faire qu'on va modifier les quantités intrinsèques. Alors, qu'est-ce qu'on prend en compte ? On va prendre en compte, d'abord, son métabolisme de base. Quand on fait un calcul, on va calculer ses besoins énergétiques de repos qui prennent en compte son sexe, son poids, sa taille, son âge. Et à partir de là, on va multiplier par, on va dire, un indice, hein, qui est le niveau d'activité physique, qui prend en compte, son activité sur 24 heures. Qu'est-ce qu'il fait dans une journée ? Combien de temps il dort ? Combien de temps il s'entraîne ? Etc. Et ce NAP, hein, ce niveau d'activité physique, va venir multiplier son métabolisme de base et nous donner ses besoins énergétiques journaliers. Donc forcément, en fonction du poste, s'il y en a un qui court 12 km et l'autre 7, ça va avoir une répercussion sur ses apports.
Alors, en ce moment, la perte de poids, c'est un peu en vogue vu que l'été arrive et que les personnes se disent « Bon, voilà, il va falloir que je me mette bien sur la plage, que j'aille montrer tous mes atouts. » Sauf que bon, ils n'ont pas prévu et voilà, on essaye de perdre très vite du poids et au dernier moment. Alors, ce qui n'est pas forcément la bonne méthode. Comment doit se passer un bon régime pour perdre du poids ? À quel rythme doit-on perdre du poids ?
Alors, souvent, c'est le régime, hein, nous, qui est du moins le mot régime qui nous déplaît, sachant en plus que nos... Par exemple, l'ANSES, hein, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement sanitaire, a émis des avis sur les risques liés à des pratiques amaigrissantes. Hein. On va parler justement de tout type de régime, hein, que ce soit détox, Scarsdale, Ducan et autres. Et donc nous, on va plutôt parler de rééquilibrage alimentaire, où là, en fonction des besoins de l'individu, on va faire une légère restriction énergétique qui va faire qu'on va perdre à peu près 1 à 2 kilos par mois.
Alors c'est une perte de poids, mais comment fait-on pour perdre du poids sans perdre du muscle, juste perdre le gras? Est-ce que c'est possible?
Alors non, pas tout à fait. Physiologiquement parlant, dès lors on va perdre du poids, on va y laisser un petit peu de plume au niveau musculaire. Hein, donc à l'inverse, ceux qui vont vouloir prendre de la masse musculaire vont aussi accuser un petit peu de masse grasse. Hein. Généralement, on dit pour un kilo de masse musculaire acquise, on va fixer entre 1 et 2 kilos de masse grasse. Donc à l'inverse, sur la perte de poids, on va laisser un petit peu de masse musculaire. Mais plus le régime va être restrictif, plus on va avoir de pertes musculaires. D'où l'intérêt de perdre de manière lente.
Aujourd'hui, ce que l'on voit le plus dans le sport, ce sont les compléments alimentaires. Tout le monde en prend, même les boissons que l'on peut trouver dans les salles de sport, les boissons vitaminées. Alors tout le monde prend sans savoir ce qu'il y a dedans, que ce soit des protéines, les acides aminés. Comment faut-il le prendre? Est-ce juste un aspect marketing ou y a-t-il quand même un bienfait dans ces pratiques de consommation de compléments alimentaires?
Théoriquement, si on prend la définition du complément alimentaire, ça veut dire qu'il va complémenter un manque. Donc pour justifier un manque, il faut, on va dire, justifier d'une recherche de manque. À partir de là, on peut prendre des marqueurs sanguin, dire ben voilà, il manque du calcium, il manque du magnésium, etc. Donc si effectivement on identifie une carence d'un certain micronutriment à ce moment-là, donc si on n'arrive pas à le corriger par le biais de l'alimentation, on va passer sur un complément alimentaire. Mais si ce n'est pas le cas, ça devient de la supplémentation. Et là, à ce moment-là, c'est complètement marketing. Si on regarde au niveau mondial, le poids des compléments alimentaires est de l'ordre de 200 milliards de dollars. Donc c'est vrai que ça pèse lourd, ça plaît à tout le monde et il y a une forte consommation. Après, il ne faut pas confondre compléments alimentaires et par exemple boissons d'effort, hein, où là on peut prendre effectivement des boissons glucidiques lors d'un effort. On peut prendre des protéines suite à un entraînement de musculation pour augmenter la synthèse musculaire dans cette fenêtre métabolique. Et là, à ce moment-là, c'est justifié. Hein, mais souvent, c'est pris à tort, sans examen au préalable.
Alors justement, il y a un ami sportif qui me posait une question par rapport aux insectes dans la nutrition. Est-ce qu'un sportif, justement, pourra se nourrir d'insectes par rapport à son programme alimentaire?
Là, on entre dans une partie que je ne maîtrise pas du tout pour l'instant parce que c'est vrai que c'est nouveau. Alors, si on analyse que la protéine ingérée a les mêmes caractéristiques que les protéines qu'on consomme actuellement, pourquoi pas? Ça pourrait s'inscrire. Hein. C'est vrai que c'est difficile. J'ai pas de peur de l'insecte, mais je déteste les insectes. Donc,
donc vous ne changerez pas votre steak contre 20 criquets ou...
Pas pour l'instant. Hein. Je vais être difficile à convaincre dans ce domaine-là.
Pourtant, il y a un avenir pour le monde des insectes dans l'alimentation, même en Occident, où justement, on se rend compte que on peut même créer des pâtes ou du riz à partir d'insectes.
Ah oui, tout à fait.
Avec le même goût, pas de différence.
Et oui, sous forme de farine, oui, on l'entend bien. Hein. Bon, je pense qu'il y a des histoires de culture, de mœurs. On mange bien des grenouilles et des huîtres, alors que peut-être...
Des escargots.
Des escargots. Alors que peut-être chez eux, ils ne les consommeront pas du tout. Hein, donc...
Alors, vous, ce que vous pensez des compléments alimentaires, c'est qu'il faut vraiment les utiliser avec parcimonie et avec... avec une analyse sanguine au préalable pour justement combler ce manque. Mais la supplémentation, qu'est-ce que c'est exactement? C'est augmenter plus que ce que l'on a besoin au niveau de nos apports alimentaires?
Tout à fait. C'est des doses qui sont au-delà des recommandations que nous avons. Hein, et c'est ce qui se fait de manière quotidienne chez la plupart des gens. On a eu plusieurs analyses en France hein, sur les habitudes alimentaires des Français. Et ce qui est sorti sur les analyses, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir un adulte ou une adulte qui vont consommer 3 fois par semaine des compléments alimentaires, et on a l'enfant qui est à 1 fois par semaine.
Donc ça peut être dangereux.
Alors, il y a des risques. Une surconsommation peut avoir effectivement des risques, des répercussions, tout à fait.
Nous allons maintenant passer à une deuxième pause musicale avec un morceau d'Iron Maiden. Vous êtes toujours sur Oxyform avec notre invité Michel Martineau. Donc là, nous avons parlé de la nutrition et de la nutrition du sport. Nous allons maintenant parler des régimes alimentaires et des contre-indications. Donc voilà, on entend parler du régime sans gluten, par exemple. En ce moment, c'est en vogue.
Oui,
ça alors fait qu'il y a très peu de personnes, j'imagine, qui sont concernées réellement en termes de santé par ce genre de contre-indications.
Tout à fait. Le régime sans gluten, bon, ça fait déjà quelques temps qu'il est en vogue. Alors, en général, le régime sans gluten est indiqué dès lors où on a la maladie cœliaque. Pour pouvoir diagnostiquer cette maladie cœliaque, au départ, on va doser des anticorps, à savoir les anticorps anti-transglutaminase. Donc ça, c'est au médecin. C'est-à-dire que généralement, quand il va y avoir une suspicion... ou une demande de l'individu, on l'envoie vers le médecin, on se met en contact avec le médecin pour qu'il puisse doser les anticorps anti-transglutaminase. Si ces anticorps ressortent positifs, à partir de là, la deuxième étape est d'aller faire une biopsie, c'est-à-dire on va faire un prélèvement au niveau de l'intestin grêle, à savoir la partie, c'est le duodénum. Et si cette partie-là, alors il y a une partie qui s'appelle la barrière ambrose, si celle-ci est dégradée, c'est comme si vous prenez un peigne avec des dents puis qu'il en manque, c'est ça. À partir de là, le diagnostic tombe et on a une maladie cœliaque. Et là, il va falloir faire une éviction des aliments contenant du gluten. Le souci, c'est que si vous voulez, on est sur des régimes d'exclusion qui sont en ce moment tendance. Et on trouve ça sur les étals et forcément, on dit que si on le supprime, ça veut dire que c'est pas bon. Donc les gens vont se tourner vers ce type d'alimentation. Alors que réellement, à l'échelle mondiale, il y a peut-être 1 à 2% des personnes qui sont cœliaques. Donc on voit vraiment que c'est pas une majorité. Alors que si vous écoutez autour de vous, vous avez l'impression que tout le monde est cœliaque.
Et le problème des OGM aussi dans l'alimentation, je n'ai pas osé en parler, mais est-ce que c'est réellement un problème maintenant?
On va dire que c'est très particulier. Forcément, on va essayer de diriger les gens vers une alimentation la moins transformée possible. Donc si on peut éviter justement de manger OGM, c'est mieux. On ne connaît pas vraiment l'impact sur une durée. Donc,
il vaut mieux pas prendre le risque.
Il vaut mieux pas prendre le risque.
Alors ça devient quand même dur parce que la plupart des gens n'ont pas le temps, vont en grande surface, font leurs courses, on va vite après le travail et n'ont pas forcément le temps d'aller au petit marché ou d'aller chez l'agriculteur prendre la voiture et d'aller prendre justement des aliments sains.
Oui, vous avez raison. Après, ça fait partie des priorisations. Le mieux, ça serait d'arriver à un retour en arrière, justement de privilégier les commerces de proximité. Mais bon, quel temps on va y consacrer ? C'est ça, c'est une histoire de priorisation, mais qui va avoir un impact santé.
Alors aussi, il y a le régime végétarien et végétalien qui sont là des régimes idéologiques, peut-on dire ?
Alors le vegan, effectivement, hein, ça fait partie de certaines idéologies. On va dire que manger vegan, c'est tout à fait possible, dès lors où on est bien suivi. Hein, parce que généralement, vous allez entendre certaines personnes qui disent ben, « si on ne mange pas de protéines animales, donc on va avoir un déficit ». Alors il faut savoir qu'on a effectivement un besoin uniquement de vitamine B12 qu'on va trouver dans l'alimentation animale. Donc là, en l'occurrence, chez les véganes, ils vont se faire complémenter. Là, c'est une réelle complémentation en B12. Mais sinon, par le biais, si vous voulez, d'une association, par exemple, des céréales et des légumineuses, on va pouvoir reproduire une protéine complète, on va dire, du même ordre qu'une protéine animale. Donc après, sur les régimes végétariens, il n'y a pas de souci parce qu'il y en a qui consomment des produits laitiers, d'autres des œufs, donc
du poisson.
Donc c'est pas forcément un souci. Après, c'est vrai qu'ils ont certaines idées pour éviter de... Bon, il est bien évident qu'il y a certaines techniques pour abattre les animaux qui sont forcément pas... qui sont pas correctes. Hein. Ça, on est tous bien conscients, mais c'est pas tous les animaux qui sont abattus de cette manière-là.
On entend aussi énormément parler de nouveaux régimes, notamment le jeûne intermittent pour laisser reposer l'organisme, les intestins, donc le fasting où on va jeûner pendant des périodes de 16 à 38 heures. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de régime ?
Ça fait toujours partie des régimes à la mode, hein, comme ce fameux régime effectivement cétogène, etc. Et on retrouve ça même chez le sportif, où là, ça ne devient pas forcément... très bien, dès lors où on sait que le substrat qui est le mieux oxydable, c'est-à-dire le carburant qui s'oxyde le mieux, est le glucose, et là on le supprime, hein, on supprime toute source de glucides. Donc on a même des équipes de haut niveau qui affichent ça. Alors il faut que les auditeurs sportifs ne retiennent surtout pas justement ces exemples-là. Hein, qui repose sur aucun fondement scientifique. Hein, on va avoir une accélération de la fonte musculaire. Donc, c'est à ne pas pratiquer. Risque de blessure augmentée. Bon. Mais ça fait partie, encore une fois, des phénomènes de mode.
Donc, ce type de régime, souvent, c'est, je pense, pour la définition, les gens veulent perdre leur graisse. Donc, du coup, ils accentuent peut-être trop le mouvement et ça... Ça peut amener justement à ce que vous venez de dire, à des blessures et à des manques.
La sèche qu'on va utiliser, par exemple, dans le milieu du culturisme, elle est liée à une diminution des apports énergétiques. Hein. Ce n'est pas vraiment le type d'aliment, comme on disait tout à l'heure, ça va être la quantité. Si on veut dégrader un peu de tissu adipeux, ben, il va falloir moins manger, de manière énergétique. Alors forcément, avec un certain équilibre alimentaire, mais c'est par le biais d'une diminution des apports énergétiques.
Nous allons maintenant passer à la séquence littéraire.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors pour le choix, je dirais culturel de l'invité, vous avez choisi un film, Michel, qui s'appelle
Sugarland.
Alors de quoi traite ce film ?
Alors ce film, c'est plutôt un film documentaire, hein, qui traite un petit peu de l'industrie sucrière. Hein, donc c'est un film qu'il faudrait projeter dans tous les établissements scolaires. Hein, et on pourrait mettre ça à 20h30, hein, sur n'importe quelle chaîne pour expliquer un petit peu quels sont un petit peu les vices, hein, de tous ces sucres cachés. Voilà. C'est pour ça que c'était un exemple que je voulais citer. Et, c'est un peu un film dans la même trame à l'époque. La personne qui mangeait McDo matin, midi, soir. Je crois que c'était... Super Size Me, exactement. Voilà.
Donc ils mettent leur danger en jeu pour démontrer que ce qu'ils mangent est mauvais.
Tout à fait.
Alors moi, pour le conseil de lecture d'Oxyform, j'ai choisi l'itinéraire de goût de Géraldine Pell avec Michel Saran, édité chez Glénat. C'est un livre avec de magnifiques illustrations qui vous donnent envie de découvrir ce qu'il vous propose. On va maintenant parler course à pied.
Les courses à venir dans la région.
Alors nous avons la Porcina Fuxi ce vendredi 29 juin 2018. Le départ est à 20h30 et vous propose une course de 9 km à Foix. Ensuite, nous avons le Trail des 11 Hameaux ce samedi 30 juin 2018. Le départ est à 9h et vous propose une course de 10 ou de 25 km à Sauveterre de Comminges. Et pour terminer, nous avons la Valaise Villoise ce dimanche 1er juillet 2018. Le départ est à 9h et vous propose une course de 6 ou de 11 km à Valaisville.
Oxyform. Oxyform.
Nous remercions Michel Martineau.
C'est moi qui vous remercie, Romain, pour l'invitation.
C'est un grand plaisir. Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Dorian Gilman et Valentin Sirug à la technique. La semaine prochaine, nous recevrons deux coachs sportifs gérants d'une salle de sport. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.